Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bonsoir à toutes et à tous. Je vous accueille ce soir. C'est donc une soirée qui a été organisée par l'association France-Amérique latine, les Amis du monde diplomatique et l'Université populaire. Une soirée autour du féminisme au Chili. Donc ce soir, on a l'honneur d'accueillir deux personnes pour vous parler un peu de cette montée du féminisme, cette révolution féministe au Chili. Donc vous aurez Franck Godichaud qui est universitaire et qui va donc présenter un reportage qui a été fait dans le monde diplomatique autour de cette marée féministe. Et Natalia Ursúa qui est donc une féministe chilienne et également la présidente de France-Amérique latine du comité de Toulouse. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que là vous allez parler, il y aura des questions après. C'est ça. Voilà.
Bonsoir. Merci pour être ici. Merci pour s'intéresser à la discussion. Donc, je veux juste faire une petite contextualisation de mouvement féministe au Chili. Et donc, pour donner quelques clés pour après, pour la discussion d'après, pour le débat. Et après, je donne la parole à Franck. Donc, du coup, on est au Chili, l'Amérique latine. Et donc, l'année dernière, il y a eu une grande explosion de mouvement féministe. Mais ce mouvement, il n'est pas nouveau. Il y a tout un développement à partir des années, même du siècle, de 20e siècle, à partir du 20e siècle. Donc, dans les mouvements féministes, un peu au Chili en tout cas, qui ça fait partie en plus des mouvements féministes internationaux, mondiaux, on peut nommer 3 à 4 périodes importantes. On va parler des vagues, des olas féministes. Donc la première, c'est pendant les années 30-40. Ça commence un peu plus avant. Même en 1913, déjà, il y a eu une super période cette année. Donc c'est la première vague, on va dire, de féminisme au Chili. On va l'appeler la vague suffragiste, qui se battent pour avoir le droit au vote et à l'élection. La deuxième, c'est pendant la dictature de Chili, donc aux années 73 jusqu'à 90, on va dire. La deuxième vague, pendant les périodes de la dictature, donc c'est la résistance à la dictature où les femmes ils se sont engagées en tant que personnes présentes qui gèrent et qui dirige des différents espaces politiques et de résistance, bien sûr. Après, il y a une troisième, mais là, il y a un peu de discussion, de débat, parce qu'il y a des féministes qui disent qu'ils comptent une troisième vague à partir des années 90, donc le retour de la démocratie. Du coup, le retour de la démocratie, il y a eu une institutionnalisation des droits à la femme, des droits, on va dire les droits à la femme, des femmes. Donc il y a eu des organisations, des organismes et l'État qui a ouvert des espaces pour les droits aux femmes. Une institutionnalisation qui a quelques, d'un côté féministe, il le compte comme une troisième vague. Et de notre côté, il n'est pas compté comme la troisième vague, et il est compté comme une cooptation de la lutte par l'État. Donc, on va dire, c'est un moment de silence des féministes. Voilà. Donc, on va dire qu'il y en a quatrième ou troisième, ça dépend où on se situe. Et donc, cette quatrième, entre guillemets, ça va être à partir de 2010-2011, et notamment 2011. Parce que par rapport à une grande explosion de mouvements d'étudiants au Chili, donc c'est là que les femmes et en tout cas la discussion de genre, ils reviennent sur la plateforme et sur la discussion publique. On peut dire qu'il y en a quatrième vague et qu'aujourd'hui, tous ces mouvements-là, ils se situent dans cette quatrième vague. Donc, pour la première vague, on va dire, c'est assez intéressant parce que ça commence, j'avais dit, 1913, parce que dans ce moment-là, il y a une période de féminisme international et du coup, des relations des féministes et des luttes féministes internationales. Du coup, on a eu comme figure importante au Chili, par exemple, Belén Sárraga. C'est une femme féministe anarchiste espagnole qui est venue au Chili et qui a aidé un peu participé de la discussion et débat féministe en aidant à faire des centres de femmes. Donc on va parler de centres de femmes liés aux femmes ouvrières surtout. Donc elles viennent de toute la discussion politique et tous les mouvements en Europe. Elles passent pour Amérique latine, elles passent pour l'Argentine, elles vont à Amérique centrale et tout, fait un peu le tour. Il y a une espèce de relation et de mobilisation internationale. Donc du coup, au Chili, il y a les centres des femmes. Autre figure importante à ce moment-là, c'est Elena Caffarena. C'est une avocate qui s'est beaucoup battue pour les droits au vote des femmes. Du coup, la particularité de cette période, c'est le mouvement féministe, mais à la fois classiste aussi, parce qu'elle parle des femmes et des luttes ouvrières. Cette organisation des femmes, elle est super active dans l'organisation de la fondation de POS, c'est le Parti ouvrier socialiste, qui après ça est devenu, c'était dirigé pour Luis Emilio Recabarren, c'est une espèce de Jean Jaurès d'ici, de France, mais surtout soutenu et appuyé pour des femmes. Donc c'est notamment ce personnage-là. Après, il y a le deuxième vague, pour faire court. C'est l'année 1949 que les femmes au Chili ont eu les droits au vote. Du coup, à partir des années 50-60, il y a une espèce de silence, même si ça bougeait politiquement aussi. Mais les femmes, elles étaient dedans la mobilisation, il n'y avait pas forcément un discours féministe. On passe au coup d'État au Chili. Donc à partir de cette époque-là, de toute la décennie de 70, les femmes, elles prennent les paroles pour dénoncer les violations des droits humains. Donc c'est toute une période où il y a les agrupations qui dénoncent les violences. Donc on a des figures comme Sola Sierra, pour nommer qu'une seule, hein, parce qu'il y a plein. Et après les années 80, il y a une grosse crise mondiale, mais en tout cas au Chili, notamment c'était le 83, qui est une crise économique parce que le régime militaire, il voulait installer, il l'a installé en tout cas, dans ce moment-là, il était en train d'installer le modèle néolibéral. Du coup, il y a une grosse crise, il y avait du chômage, il y a eu des manques d'alimentation et tout ça. Donc, du coup, les femmes, elles ont pris aussi la parole là, elles ont fait des organisations de quartier. Par exemple, c'est bien connu toute la participation des femmes dans las ollas comunes. Las ollas comunes, c'est, on peut dire, c'est des casseroles de repas communs, où les quartiers, ils faisaient tout le monde arriver à faire une grosse organisation pour que tout le monde puisse avoir un plat à manger, au moins une fois par jour. Voilà, donc ça, c'est une grosse organisation mise en place pour des femmes. Et aussi, il y a, dans les années 80, il y a eu un moment de résistance, même en organisation armée, où il y a eu une commandante, carrément, et femme, qui s'appelait la commandante Tamara, qui faisait partie du Frente Patriótico Manuel Rodríguez. C'est une séparation, on va dire, de PC qui a pris la lutte armée. Donc, elle a participé et elle a dirigé, on va dire, attentat, pour dire un gros mot, contre le dictateur, contre Augusto Pinochet. Voilà, après, elle a été assassinée. Mais bon, juste pour contextualiser qu'il y a eu quand même des figures importantes dans cette période. Et voilà, il en arrive donc à la démocratie, entre guillemets, et c'est le retour de la démocratie. Et là, dans le premier gouvernement de Patricio Aylwin, qui fait partie d'une coalition politique entre gauche et centre, et qui s'appelle Concertation, Donc lui, il a créé dans ce gouvernement le Service national de la femme. Du coup, là, on parle de institutionnalisation des problèmes de femmes. Et là, c'est le débat si on le trouve bien ou pas. Après, dans ces périodes-là aussi, on peut dire, on peut compter l'élection de Michelle Bachelet. Même s'il n'est pas féministe, ça fait, pour quelques féministes chiliennes, ça fait un symbole quand même. C'est la première fois qu'il y a une femme en Amérique latine qui arrive au gouvernement. Voilà. Et on passe au 2010-2011 avec cette explosion des mouvements d'étudiants, où il y a eu une autre façon de faire politique, et du coup, là, ça ouvre aussi, même si on peut être d'accord ou pas, mais il y a eu des porte-paroles femmes. Ça, on ne l'avait pas vu avant. Donc, notamment, par exemple, Camila Vallejos, et c'était la première fois. Donc, ça faisait aussi une espèce de symbole qui puisse avoir une femme et représentante des étudiants d'université. Et aussi dans la ACES, qui est l'Assemblée générale des lycéens et des secondaires, des étudiantes secondaires, des lycéens, oui, voilà. Et aussi, il y a eu des porte-paroles femmes, donc Isidora, aujourd'hui il s'appelle Agélène, et ils essayent en tout cas de faire paritaire, donc toujours avoir un homme et une femme. Donc ça, c'est à partir de 2011. Et voilà, donc on arrive au maillot féministe, hein, 2018. Pourquoi le maillot féministe, ça vient pas comme ça, hein. Donc, maillot féministe, c'est à partir de toute une plein de ces événements qui sont fait monter la colère. Donc, 2011, c'était le mouvement d'étudiants qui sont mis encore les problèmes de genre, problèmes, discussions, débats de genre sur la table comme discussion politique. Et 2015, on a vu au Mexique, ça c'est le contexte international, au Mexique, ni una menos. Donc en 2015, ni una menos au Mexique, ça a pris par toute l'Amérique latine. 2016, on a monté des violences contre la femme, donc beaucoup de féminicides. Et donc au Chili, en Argentine. Et finalement, le 2018, il y avait un scandale par rapport au harcèlement sexuel à l'université. Et c'est là que ça a pris beaucoup d'importance. Et du coup, toutes les femmes sont occupées carrément, les universités, les lycées, les collèges, pour dénoncer et pour demander une éducation non sexiste. Et à partir de là, il y a eu un mois et demi, même deux mois d'occupation. Carrément. Donc, présidente Piñera, qui est encore notre président, si on peut dire ça, il était obligé, en tout cas, à faire un agenda, un programme de la femme. Après, s'il est réussi ou pas, après, il y a plein de critiques à ça, mais il était en tout cas obligé à le faire, parce que pour pouvoir un peu calmer ce mouvement qui montait jusqu'à plein de choses. Donc, dans ce moment-là, il y a une coordination qui aujourd'hui est en place, qui s'appelle la Coordinadora Feminista 8 de Marzo. Et voilà, donc là je passe la parole à Franck.
Merci Nati. Moi ce que je propose c'est de revenir dire d'où je parle déjà. J'ai donc fait ce reportage pour Le Monde Diplo sur le mouvement féministe chilien. Donc ça fait plusieurs années que je navigue entre la France et le Chili, que je travaille sur les mouvements populaires chiliens. Les dernières années, j'ai passé beaucoup de temps au Chili. Et c'est vrai que j'ai vraiment vu à quel point la montée en force des luttes féministes ont commencé à être au centre des luttes sociales chiliennes. Et donc quand on a discuté avec les copains du Diplo, ça fait longtemps qu'on voulait faire un papier sur le Chili. Moi, c'est vrai que dernière période, je travaille surtout sur le syndicalisme dans les ports, donc c'est pas vraiment la même chose. Mais la question des luttes féministes est devenue centrale dans l'agenda politique du pays et des mouvements populaires. Et donc, c'est posé la question de faire un reportage sur cette marée féministe. La question pour moi, c'était déjà que je suis pas une femme, et donc quelle légitimité il y aurait à ce que je fasse un reportage? Et donc c'est une discussion qu'on a eue avec les compañeras de la Coordinadora 8 de Marzo Et elles, en fait, elles ont dit, mais au contraire, fais ton reportage. Nous, ce qu'on veut, c'est garder la tête du mouvement, la conduction du mouvement. Si les hommes peuvent nous aider à faire de la diffusion, si les hommes peuvent nous aider à garder les gamins quand on fait les réunions, on est d'accord pour que vous participiez, mais toujours de manière subordonnée à la direction du mouvement féministe. Donc, je voulais insister là-dessus. C'est quelque chose qui a été, discuté avant de commencer le reportage. J'en ai déjà d'abord parlé avec les membres de la coordinadora qui ont été d'accord pour qu'on fasse ce reportage. Alors, je vais juste aborder deux petits points qui reprend. Je vais faire plutôt la description basée sur ce reportage-là. C'est un reportage long puisque j'y suis allé plusieurs fois sur des périodes assez longues. Et j'y étais encore pour le 1er mai avec elles. Elles ont fait toute une action vraiment intéressante dans le cadre du 1er mai. Un premier point donc sur... je vais reprendre certains éléments de ce qu'a dit Nati, mais à quel point la domination des femmes, la domination du travail des femmes, rémunérée et non rémunérée, est au cœur du modèle néolibéral chilien. Et c'est notamment là-dessus qu'elle travaille beaucoup et qu'elle se mobilise beaucoup dans la dernière période pour dénoncer à quel point non seulement les salariés, les travailleuses, mais en fait toutes les femmes sont au cœur de la domination néolibérale, qu'elles soient directement salariées ou qu'elles soient à faire du travail reproductif ou de reproduction sociale, qu'ils soient rémunérées ou pas. Et deuxième point, c'est comment elles s'organisent. Je pense que c'est pas intéressant d'essayer de comprendre concrètement les modes d'organisation de la coordination, parce qu'une coordination féministe qui a quand même réussi à mettre 800 000 personnes dans la rue le 8 mars dernier, c'est la plus grosse mobilisation de rue depuis la fin de la dictature. Donc c'est quand même considérable ce qu'ils ont réussi à faire et à organiser en quelques années. Et donc moi ce qui m'a intéressé, c'est d'aller aussi au sein de la machinerie de l'organisation militante concrète, quotidienne, pour réussir à faire monter en fait la mayonnaise d'une certaine manière et devenir un mouvement massif, unitaire et pourtant radical dans ses revendications. Je pourrais vous donner, elles ont un programme en 10 points qui est très très radical. Là, j'ai amené, vous en avez sur les tables là-bas, ça aussi nous l'ont passé pour ce soir, elles ont sorti ça pour le 1er mai féministe, donc si vous lisez l'espagnol, vous en avez plein là-bas, vous pouvez les prendre, vous pourrez voir que c'est vraiment un mouvement qui arrive à être massif, mais en même temps qui maintient une forte radicalité face au néolibéralisme, au patriarcat et même au capitalisme. Donc sur cet héritage des luttes dont a parlé Nati, c'est vraiment important de voir que c'est pas un mouvement spontané, évidemment, c'est une accumulation d'expériences historiques avec des flux et des reflux, comme le disait Nati, il y a un moment où on a l'impression que c'est un silence féministe, mais en fait les féministes n'ont pas disparu, elles étaient toujours là, mais elles ont commencé à être un peu dans les marges, parce qu'au moment de la transition en 89-90, ceux qui prennent le dessus... C'est les élites politiques du centre-gauche, du centre, qui ont négocié, y compris avec la droite, la transition démocratique, avec les militaires y compris. Et dans ce cadre-là, il y a un secteur des féministes historiques, celles qui ont lutté contre la dictature, celles qui disaient démocratie dans le pays, démocratie dans le lit, démocratie à la maison. Celle aussi, le féminisme populaire, qui était dans les quartiers populaires. Il y a un secteur, des élites féministes qui ont accepté finalement la transition pactée à la démocratie et ont commencé à intégrer les ministères, comme l'a dit Nati, à s'institutionnaliser. En échange d'avancées, hein, c'est pour ça que la discussion, elle disait, le sacrifice valait la peine pour ce secteur-là, plus institutionnel. Parce qu'il y a eu le service national de la femme, il y a eu quelques avancées. Mais il y a tout un autre secteur féministe qui a dit c'est une trahison de nos engagements, en fait. Nos engagements pour une démocratie radicale, pour combattre le patriarcat, etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée de Michelle Bachelet dans les années... Donc, elle a été ministre dans les années 2000, ensuite deux fois présidente de la République... Donc, rappelez, Bachelet, c'est médecin, agnostique, divorcé, dans un pays très conservateur. Donc, il y avait une sorte d'espoir que Michel Bachelet, au moment de son élection, incarne, peut-être pas forcément le féminisme, mais des avancées notables pour le droit des femmes. Et là, quand même, la déception était plus que forte. Et surtout parce que le modèle, lui, économique, néolibéral, a été maintenu durant toutes ces années. Pendant 20 ans, c'est la même coalition de centre-gauche, certains disent, qui a dominé le Chili, de 90 à 2010. Et cette coalition, en fait, elle a accepté non seulement le néolibéralisme, mais aussi elle a très peu fait pour le droit des femmes. Et l'arrivée de Bachelet, ça a très peu changé la donne. Et d'une certaine manière, cette nouvelle génération féministe qui arrive sur le devant de la scène, qui sont jeunes, des fois très jeunes, il y a vraiment des jeunes de 12-13 ans qui ont été au cœur des mobilisations, des dernières mobilisations. Et en fait, elles sont en rupture avec toute cette élite politique qui a gouverné le pays, en rappelant quand même qu'au Chili, il n'y a pas eu d'assemblée constituante. La constitution qui gère le Chili actuel, ce n'est pas la constitution de 80 de la dictature, mais en grande partie, si. Elle a été modifiée, il y a eu des modifications en 90, en 2005, mais il n'y a pas eu une nouvelle constitution qui a été rédigée. Donc il y a vraiment eu des héritages qui pèsent lourdement sur l'ensemble de la population, et y compris sur la question du droit des femmes et de la domination aussi patriarcale.
Même audio, une mémoire sonore.
Aujourd'hui, on a Piñera, c'est le Berlusconi chilien, si vous voulez, pour aller vite, multimillionnaire, son frangin, c'est lui qui a mis en place les fonds de pension, qui a ravagé le système de pension de retraite au Chili. Lui, carrément, il assume concrètement, il est connu d'ailleurs pour toutes ces petites phrases ultra machistes, ultra méprisantes. Et lui, il assume une vision, en fait, du droit de la femme, pas des femmes, hein, déjà, comme une question de parité dans les conseils d'administration des entreprises et installer quelques crèches dans les entreprises publiques. Pour ça, pour lui, c'est ça l'agenda femme, les grandes avancées de la droite chilienne. Donc, c'est une vision totalement néolibérale, finalement, conservatrice des droits de la femme. Et c'est une coalition qui est au pouvoir, il faut rappeler, qui est soutenue par l'Opus Dei, qui est soutenue par d'anciens adeptes de la dictature, et vraiment des forces très clairement néolibérales ou conservatrices. Par contre, ils sont minoritaires aujourd'hui au Parlement. Donc on est dans un pays où il y a des héritages, la dictature continue à peser, l'Église catholique est très forte, le code civil, par exemple, c'est celui de 1855, encore au Chili. La légalisation du divorce, elle est obtenue en 2004, vous voyez, quand même. L'interruption volontaire de grossesse, c'est sous Bachelet, mais c'est dans des conditions extrêmement limitées, puisque c'est qu'en cas de viol, de danger immédiat pour la mère ou d'inviabilité du fœtus. Dans tous les autres cas, c'est illégal, l'avortement au Chili. Et en plus, la droite a obtenu une objection de conscience. Vous savez qu'en France, il y a aussi une objection de conscience qui existe. Mais ce qu'ils ont obtenu au Chili, c'est encore plus fort, c'est une objection de conscience institutionnelle. C'est-à-dire, l'Église au Chili est catholique, elle est très forte, elle a des cliniques, elle a des universités, elle a des collèges. Et donc, dans les grandes cliniques qui sont gérées par l'Église catholique, la direction de la clinique peut décider en tant qu'institution que dans ses murs, elle n'appliquera pas la loi de l'IVG. Même dans les trois dangers immédiats pour la mère, par exemple, elle refusera systématiquement en tant qu'institution. C'est unique au monde, hein, une objection de conscience institutionnelle, plus individuelle, plus celle du médecin. Donc vous voyez un peu le contexte hyper conservateur dans lequel ces féministes se mobilisent, toutes celles qu'on voit ici, et qui ont réussi vraiment des choses quand même assez incroyables. Enfin, très intéressante, très radicale. Bon, je ne vais pas donner des chiffres, mais en tout cas, ce mouvement féministe aujourd'hui, il discute sur plein de sujets en même temps. Ils sont dans une perspective vraiment intersectionnelle, domination de genre, de classe et de race. C'est vraiment au cœur de la discussion. En ce sens-là, on est vraiment dans la quatrième vague du féminisme au Chili. Et pour terminer sur le contexte et la difficulté de ce qu'est être femme au Chili, et pas qu'au Chili évidemment, par exemple sur les violences sexuelles, tous les chiffres officiels montrent qu'un tiers des femmes chiliennes ont subi des violences sexuelles au moins une fois dans leur vie. Sur la violence faite aux femmes, il y a un réseau qui s'appelle Réseau contre la violence faite aux femmes. Il y a une mort sous les coups d'un homme, très souvent un proche ou un mari, une fois par semaine. Vous direz, les statistiques françaises sont encore pires que celles-là. Donc voilà, ce n'est pas l'idée de dire « Ah, les Chiliens, hein, bien entendu, regardons ce qui se passe ici ». Ce qu'elles incitent beaucoup, justement, ces féministes chiliennes, c'est de dire « La violence faite contre les femmes, c'est une violence qui est aussi celle du capitalisme, qui est aussi celle du modèle néolibéral. La violence contre les corps, c'est aussi la violence du capital ». Donc elles ont toutes ces discussions-là, qui est intéressante dans leurs ateliers, dans leurs assemblées. Et surtout, c'est pour essayer de se démarquer du féminisme libéral. Parce que ce qui est très fort, c'est que le gouvernement Piñera, il y a un ministère de la femme qui a été installé par Michelle Bachelet, qui a maintenu Piñera. Tous les ministres aujourd'hui se disent féministes, c'est formidable. Même Piñera, il a commencé à dire « Oui, mais moi aussi, la femme chilienne, bien entendu, c'est important, les droits des femmes, mais moi aussi, je suis féministe. » Mais en fait, concrètement, c'est bien entendu de l'enfumage. Donc, en réponse, les féministes chiliennes mobilisées marquent très fortement le terrain et se différencient très fortement par rapport à ce féminisme libéral. Sur les conditions de travail, qui est un des centres de la mobilisation, et en répétant pas seulement le travail salarié, mais aussi le travail non rémunéré, sur le travail salarié, la semaine légale de travail au Chili, c'est 45 heures, déjà. Mais de nombreux Chiliens travaillent plus de 45 heures, et de Chiliennes en particulier. 70% des salariés perçoivent moins de 700 euros par mois, et les femmes salariées, elles, perçoivent 30% de moins que les hommes. Et on pourrait continuer comme ça sur les statistiques. La moitié des femmes chiliennes ont une activité rémunérée, l'autre moitié non rémunérée. Travail reproductif, non domestique, etc. Et celles qui travaillent avec une activité rémunérée, 30% travaillent sans contrat. Donc dans le secteur informel, au noir, etc. Là, c'est quand même extrêmement... Ça veut dire zéro protection sociale, pas de droits pré- et post-natal, etc., etc. Pas de droits syndicaux, pas de droit de faire la grève. Bon. Sur l'accès à la santé, le système de santé a vraiment été en grande partie privatisé sous la dictature de Pinochet. Et je l'ai dit, les retraites, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a le mouvement, c'est celui-là, je crois, Nomas AFP, mettons fin aux fonds de pension, qui est un mouvement national, mais dans lequel les féministes chiliennes aussi se sont fortement investies, en montrant que, en fait, ce sont les femmes les premières victimes de ce système de fonds de pension par capitalisation, même si tous les travailleurs en sont, bien entendu, victimes. Ceci dit, donc le deuxième point, pour ne pas être trop long, c'est comment elle s'organise, comment on est arrivé à ce mouvement massif de la marée féministe ou de la coordination du 8 mars, Coordinadora 8 de marzo. Il y a cette massivité quand même qui est vraiment impressionnante, importante. Bon, déjà, ce qu'elles ont réussi à faire, c'est commencer à faire converger plein de petits collectifs qui existaient depuis souvent très longtemps, mais qui avaient peu de relations entre eux, voire qui étaient même plutôt des relations conflictuelles. Peu à peu, il y a eu une convergence, et elles ont essayé de trouver des dénominateurs communs pour monter une coordination qui est très souple, très flexible. Par exemple, sur la structuration, il y a des porte-paroles, mais c'est des porte-paroles avec rotation permanente. Et c'est des porte-paroles qui sont collectifs. Donc il n'y a pas une porte-parole du mouvement. C'est des porte-paroles qui se transforment au fil du temps, tous les deux mois, tous les trois mois. Et en plus, en même temps, on a à peu près tous les secteurs qui sont représentés dans le système de porte-paroles. Et c'est ça qui est important aussi, c'est à faire converger les secteurs des féministes et des femmes migrantes organisées, des salariés et de certaines syndicalistes. On pourrait revenir avec le mouvement syndical, c'est quand même compliqué, mais il y a des avancées importantes. Des étudiantes mobilisées. Nati en a parlé pendant un temps, c'est le cœur de la marée féministe, elle était centrée sur les étudiantes, qui ont vraiment fait trembler le pays en mai 2018. Il y a plus de 12 universités occupées pendant des mois, des mandarins de l'université ont même dû démissionner, même l'ancien président du tribunal constitutionnel quand même, qui a dû démissionner de l'université face aux accusements de harcèlement. Donc il y a plusieurs secteurs qui ont conflué au sein de ce qui est aujourd'hui la Coordinadora 8 de marzo. Il y a plus de 60 collectifs et organisations qui la composent. Et ça, déjà, c'est une force, c'est une richesse qu'elles ont réussi à mettre en place de manière vraiment très lente, sur plusieurs années en fait, de rencontres organisées régionales, ensuite nationales. Un des consensus, et c'était le slogan de la mobilisation du 8 mars dernier, c'était « Femmes travailleuses dans la rue contre la précarisation de la vie ». Et cette idée de la précarisation de la vie, elles ont trouvé que c'était une sorte de point commun sur toutes les mobilisations, que ce soit celle des quartiers populaires sans travail, celle des salariés précaires, celle des migrantes discriminées, discrimination de race, de genre, des étudiantes qui, au Chili, et on les incite très souvent là-dessus, sont aussi très précaires, considérablement endettés. Vous savez peut-être que l'enseignement supérieur au Chili, c'est les étudiants chiliens et les étudiantes sont les plus endettés de la planète en rapport à leur pouvoir d'achat. Plus qu'aux États-Unis, en Angleterre, c'est dire. Donc l'idée de féminisme mobilisé contre la précarisation de la vie, c'est un peu le point commun. Les antécédents, donc Nati en a parlé, je ne reviens pas, mais c'est vrai que le méféministe universitaire a préparé le terrain finalement, en montrant que l'occupation des espaces, l'occupation de la rue, la communication sur les réseaux sociaux, il y a un usage massif des réseaux sociaux. Bon, après on peut discuter, elles ont des discussions très fortes hein, sur aussi Facebook, c'est pas l'anticapitalisme incarné, hein, on l'aurait bien compris. Parce que les réseaux sociaux permettent aussi à la police de les surveiller. Bon, il y a des discussions importantes là-dessus. Donc, il y a eu un premier tremblement de terre, on pourrait dire, en mai 2018, et une réplique en mars, le 8 mars. Le contexte international a joué à fond. Le fait de la massivité des luttes féministes en Argentine, le Ni Una Menos, vraiment a impacté très fortement les féministes chiliens. Elles ont, par exemple, récupéré el pañuelo verde. Il a circulé des deux côtés de la cordillère, par exemple. Et maintenant, il est revendiqué au niveau international, enfin continental, en tout cas en Amérique latine. Les luttes madrilènes aussi ont beaucoup marqué, parce que l'idée de la grève féministe qu'il y a eu en Pologne et en Espagne, ça a beaucoup fait discuter dans les ateliers au Chili. Et cette idée de mettre en place une grève féministe, c'est ce qui a un peu été le mot d'ordre clé de la dernière période. Donc il y a un contexte, tout ce que tu as dit aussi sur le Mexique, les féminicides, et donc contre la violence faite aux femmes, les violences de genre. Sur la structuration, ce qu'elles ont réussi, c'est avoir des assemblées territoriales, notamment dans des grandes villes comme Santiago, et donc quand même ça leur a donné un ancrage par quartier. Je pense que c'est ça leur force. Alors je ne dis pas qu'elles sont dans tous les quartiers, il y a des quartiers où elles n'arrivent pas à se mettre en place, mais il y a une forme d'assemblée territoriale, et ces assemblées territoriales ensuite se réunissent régulièrement à un niveau régional. Mais c'est au niveau territorial qu'elles se mobilisent, qu'elles se réunissent de manière quotidienne, et elles se tiennent au courant en permanence. En fait, voilà, ce type de réunion, c'est ce type de préparation qui était hyper important avant le 8 mars, des réunions, des interventions de rue aussi. Donc elles ont des brigades de rue. Par exemple, ça, c'est dans un mall, dans un grand centre commercial, qui a annoncé « la grève féministe arrive ». Elles ont aussi, vous l'avez sûrement vu, changé le nom des stations de métro, qui sont dominées par le patriarcat, les hommes. Et donc elles les ont substituées par le nom de femmes, souvent des femmes, souvent même oubliées, y compris par les féministes elles-mêmes. Donc elles ont fait un travail de recherche historique. Certaines sont très connues, mais d'autres ont été un peu... récupérées par ce travail qu'elles ont fait. Et on trouve des femmes aussi bien du début du siècle, de ce qu'a parlé Nati, que des femmes qui ont disparu pendant la dictature, ou des intellectuels féministes qui ont apporté à la réflexion au Chili. Et finalement, en décembre 2018, il y a eu une grande rencontre nationale où elles ont été 1200 femmes pendant 3 jours à l'Université Santiago qui ont discuté et préparé la grève féministe, en fait, qui venait le 8 mars 2019. Donc vraiment cette rencontre de décembre 2018 avec 1200 femmes qui venaient de du nord au sud du pays, c'était un moment vraiment de délibération, d'élaboration très importante. Il y a un premier succès. En gros, à partir de ce moment-là, elles ont compris qu'il était en train de se passer quelque chose. Être capable de mettre 1200 femmes pendant 3 jours à délibérer sur ce qu'on va organiser le 8 mars, c'est que dans le pays, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une possibilité de devenir un mouvement massif, on va dire. Et c'est là qu'elles ont décidé d'un programme en 10 points. Alors, je ne vais pas vous le lire, mais où on retrouve contre l'éducation marchandisée, sexiste et coloniale, et catholique en plus, pour l'avortement libre, légal, sûr et gratuit, contre la violence politique, sexuelle et économique, pour l'autodétermination des peuples autochtones, et en particulier du peuple mapuche. Donc ça, en 10 points. Et c'est le programme sur lequel elles sont mises d'accord qui a donné la base ensuite à la mobilisation et à la grève féministe. L'action, le type d'action grève féministe a fait consensus, finalement, même s'il y a des discussions encore là-dessus. Mais c'est une idée de la grève féministe qui est multiple, c'est-à-dire grève productive, notamment pour les salariés et celles qui sont organisées syndicalement, grève reproductive, Déjà pas de sexe, mais aussi pas de, de travail domestique à la maison. C'est au mec de s'y mettre, de garder les gamins, de s'occuper de la bouffe, de tout gérer ce jour-là. Grève de la consommation. Et il m'en manque un, c'est quatre. Je vous le retrouve tout à l'heure. Donc en gros, c'est essayer de multiplier les formes de grève. Parce qu'une des critiques d'un secteur du mouvement féministe, c'est que l'appel à la grève féministe a un gros défaut, c'est qu'il concerne avant tout les salariés. Et les salariés femmes au Chili sont minoritaires au sein des femmes. Et faire la grève, c'est en même temps extrêmement difficile, puisqu'il faut avoir le droit de faire la grève. Dans un pays où le code du travail, c'est celui 79, c'est celui de la dictature, quasiment au Chili, faire une grève légale, c'est quasiment impossible. C'est le pays de la grève illégale, en fait. Donc, appeler à la grève féministe en soi, c'était, certains ont commencé à dire, mais c'est un appel d'un secteur seulement des femmes qui va exclure les migrantes, les femmes du secteur non rémunéré, celles qui n'ont pas accès à une protection et donc à une organisation syndicale. Donc elles ont fait un appel à la grève qui soit multiple ce jour-là. Et finalement, ça a quand même été tout à fait fort et massif. Ah oui, c'est ça donc. Sur le lieu de travail, grève des soins et grève du travail non rémunéré, interruption de la consommation, manifestation dans l'espace public. Voilà, c'était ça les quatre. Indéniablement, c'est la manifestation dans l'espace public qui a le plus fonctionné, qui a été le plus visible. Et c'est difficile de mesurer jusqu'à quel point il y a eu grève féministe, la massivité dans les autres secteurs. C'est une discussion qu'elles ont entre elles. Bien entendu, il y a de nombreux débats et critiques. Par exemple, il y a un secteur des féministes décoloniales qui critique le caractère assez blanc, assez classe moyenne du mouvement féministe, qui pense qu'elles ne sont pas assez ancrées dans les quartiers et qu'elles ne mettent pas assez l'accent sur l'émancipation des peuples autochtones et Mapuche en particulier. Qu'il n'y a pas assez de réflexion sur un féminisme décolonial et populaire. Donc ça, c'est un débat qu'elles ont fort entre elles. La question des femmes racisées, des femmes migrantes qui ne seraient pas assez au centre des mobilisations. En même temps, la coordination a fait pourtant essayer de mettre au centre, mais c'est vrai que c'est difficile jusqu'à maintenant à faire. Deuxièmement, il y a la question du mouvement syndical. En fait, le mouvement syndical a très peu accompagné la grève féministe. La centrale unitaire des travailleurs, la CUT, a appelé la grève féministe deux jours avant, en fait. Donc là, il y a un frein très fort du mouvement syndical, de la grande centrale en particulier, qui est pourtant présidée par une femme, Barbara Figueroa, qui est militante du Parti communiste. Mais ils ont senti que ce mouvement leur échappait, je sais pas, à leur contrôle, et donc ils ont été très réticents face à la coordination Ocho de Marzo. Donc là, c'est un problème aussi. Faire une grève féministe sans le soutien syndical, évidemment, ça freine beaucoup. L'insertion dans les quartiers populaires, qui est encore une bataille importante. Et après, je l'ai dit, la discussion sur est-ce que l'appel à une grève féministe n'exclut pas un secteur des femmes qu'elles ont entre elles. Conclusion, un mouvement massif, très intéressant, et dans un contexte de plus en plus dangereux. Vous avez vu que l'Amérique latine, c'est à droite toute, voire à l'extrême droite toute. Les églises évangéliques sont en pleine ascension. Alors là aussi, c'est intéressant. Dans les assemblées de préparation du 8 mars, il y avait deux pasteurs évangélistes, qui, elle, disait « Je suis évangéliste, mais je défends le droit libre et gratuit à l'avortement, je suis féministe, etc. » Mais c'est ultra minoritaire. La majeure partie du mouvement évangéliste est ultra conservateur, contre l'avortement, homophobe, transphobe, etc. Donc là, il y a un vrai problème. Et puis l'extrême droite, bien sûr au Brésil, mais aussi au Chili, a connu une réorganisation importante. Il y a même maintenant un petit parti fasciste qui les attaque physiquement dans la rue. Elles ont été attaquées physiquement lors de manifestations, voire qui menacent certaines porte-parole du mouvement féministe. Donc là, c'est quand même une grosse affaire. Et je termine avec une phrase du reportage, Alondra Carrillo, qui a été une des porte-parole. Elle dit « Il s'agit de montrer que le féminisme est une alternative réelle et globale, particulièrement dans un moment de montée en force de l'extrême droite et de courants réactionnaires dans toute la région. » Voilà.
Je voulais finir un peu en donnant quelques anecdotes, en fait. Par rapport à mon expérience en tant que chilienne et militante de quelques organisations féministes et politiques, quelques anecdotes, du coup, tu disais les problématiques de quartier. il y a une réticence beaucoup pour partie des femmes par rapport à la culture. La culture, elle est très dominante dans son esprit, on va dire. Il y a une espèce de conservatisme. D'avoir un moment de prendre la parole. Mais il y en a contradiction parce qu'ils le prennent quand même. Donc ils le prennent, mais ils ne sont pas conscientes d'avoir cette parole. Donc du coup, elles organisent des moments de grève, même la vie des enfants. Des fois, il y a des petites organisations dans les quartiers pour garder les enfants. Parce que garder les enfants au Chili, c'est très cher. Donc il y a par exemple... Et si tu travailles et pour avoir un droit à la crèche, bah, il faut payer, c'est privé. Du coup, ça coûte énormément. Ça coûte entre 300 euros, même plus. Et le salaire d'une femme, c'est, je sais pas, 400 euros, 500 euros. Donc, c'est plus que la moitié pour la crèche. Donc, il y a, dans quelques quartiers qui sont une espèce de tradition d'organisation populaire, il y a des petites organisations et pour garder les enfants, par exemple, mais ils ne se disent pas féministes. Donc, ça, c'est un problème parce qu'ils font plein des actions qu'on pourrait dire, on pourrait nommer féministes, mais ils ne se nomment pas comme féministes. Pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas la solution de ça. Ça, je ne sais pas pourquoi. Et par rapport à moi, je suis musicienne, donc je viens de la partie artistique. Du coup, je peux dire comme une anecdote, je crois que l'art aide beaucoup et accompagne beaucoup les luttes féministes aujourd'hui. Donc, notamment à partir de 2011, il y a une espèce d'ouverture et aussi des prises de conscience que l'art sert beaucoup à donner un contenu et à prendre la parole. Donc, du coup, il y a eu plein d'organisations, des théâtres, des musiques, même des musiques traditionnelles, qui est des femmes non mixtes qui parlaient des problématiques des femmes. Donc aujourd'hui, je pense que ça aussi a aidé à que aujourd'hui les gens ils passent à la rue, ils sortent dans la rue et d'une façon artistique ils prennent ces paroles. Donc juste pour dire que ça c'est un complément important, je crois, pour l'expression aussi des femmes parce que on l'utilise comme un outil, l'art. Pour s'exprimer, en fait. Donc, je pense que ça, c'est super important. Parce que vous voyez, les filles font plein de performances et avec le corps, avec il y a une espèce de brise de la pudeur. Comment se dit ? La pudeur. Voilà. Donc, juste pour donner quelques anecdotes, aussi comme ce que j'ai vécu en tant que chilienne.
Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.